Nous sommes à l'aube de l'ouverture du 77e Festival de Cannes et il est l'heure de parler de nos attentes et des grands moments à venir. Opening Weekend numéro 74, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Pardon. Nous sommes de retour pour ce nouvel épisode d'Opening Weekend. Pas depuis le Festival de Cannes malheureusement, puisque nous sommes bien à Paris pour enregistrer cet épisode. Et j'ai le plaisir d'être encore une fois bien entouré aujourd'hui en commençant par ma fille Macalou. Bonjour ma fille.
Bonjour Aurélie. L'habitude c'est horrible. Bonjour Tom.
Merci ma fille. Jérémy Trecaisser. Bonjour Jérémy.
Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Aurélien, si tu nous écoutes.
Qui lui est à Cannes.
Le petit vénard.
Le petit vénard, on va lui mettre quelques taquets en passant pendant l'émission.
Avec grand plaisir.
Monsieur Chiffre, Julien Bernard.
Bonjour tout le monde.
Et Arthur Pavlovski.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, sans plus attendre, embarquons déjà dans les perspectives de ce Festival de Cannes. Nous enregistrons l'émission lundi soir. Le Festival de Cannes ouvre ses portes maintenant dans 24 heures. Un festival qui va démarrer évidemment avec un contexte très politique. Déjà parce qu'il y a la menace MeToo ou peut-être la délivrance MeToo qui est sur le Festival de Cannes. Mais aussi, on en parle peut-être un peu moins, mais c'est aussi tout aussi important. Les menaces de grève des festivaliers, du moins des personnes qui travaillent pour les festivals, des menaces de grève qui sont liées aussi évidemment à la précarité du métier, tout un contexte politique mondial assez pesant. Mais voilà, nous on va aujourd'hui prendre notre rôle à cœur, celui de parler des films, celui de parler de ce qui nous attend en termes d'événements lors de ce festival. J'ai envie pour commencer de donner la parole à toi Jérémy pour nous parler de tes attentes en termes de films, mais aussi en termes d'événements de ce festival.
Oula, ça c'est une vaste question, parce que très clairement, là je relisais avant le début de ce podcast, ne serait-ce que la sélection des films en compétition, honnêtement il y en a au moins 4, 5, peut-être même 6 qui sur le papier me donnent très 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 envie, et bon, je vais pas tous les dire, mais là comme ça au débeauté je dirais le nouveau film de Jia Zhangke, le grand réalisateur chinois qui a gagné quelques prix, mais bon qui n'a jamais eu encore de consécration suprême, le retour du réalisateur portugais Miguel Gomes, évidemment Francis Ford Coppola, comme tout le monde, mais il y a aussi Kirill Serebrennikov qui revient avec Limonov, donc adapté du roman d'Emmanuel Carrère, et il y a aussi un autre grand retour, celui de Paul Schrader avec un film qui s'appelle Au Canada. Et est-ce qu'il y en a un dernier? Bah oui, évidemment, Les Linceuls, en anglais The Shrouds de David Cronenberg, le maître est de retour.
Donc pas moins de 6 films que tu attends, Jérémy. C'est plutôt une belle sélection pour toi, alors.
Ah bah ouais, et puis en fait, là, je les relis, il y en a d'autres, il y a le Ali Abbasi. Sur le papier, c'est un très très beau cru cannois, et en termes d'événements, bah, on peut parler quand même de la projection de Mad Max Furiosa, presque 10 ans, je crois, après Fury Road.
C'est ça. C'était en 2014, donc complètement 10 ans. À noter que le Festival de Cannes a déjà un peu commencé pour de nombreux professionnels du cinéma, puisque ils se sont retrouvés déjà à Cannes depuis hier pour les rencontres nationales Art et Essai, donc qui ont lieu dans la salle Debussy notamment. Certains films vont être projetés donc entre dimanche et mardi. On pense au film Le Procès du Chien de Laetitia Doche, qui sera présenté à un certain regard. On pense également à l'histoire de Souleymane, de chez Pyramide, Ma vie, ma gueule de la regrettée Sophie Filière, mais également le film Enfant phare qui lui sera présenté en compétition d'Emmanuel Courcol, sorti par Diafana. On salue tous nos amis et collègues qui sont déjà depuis hier aux rencontres ARC, et ce petit vénard d'Aurélien qui lui y est aussi et qui ne participera pas à l'émission ce soir puisqu'il est en salle.
Mais oui, monsieur a trop de projections. Voilà. Pendant que nous on parle des films, monsieur les voit.
Julien, toi, c'est tes attentes sur Cannes, quelles sont-elles?
Je sais pas, vous avez déjà tout cité, il n'y a plus rien à dire. Donc on va commencer pas par mes attentes, mais je t'avoue, je comprends pas pourquoi le Bong Joon-ho est pas là. C'est quand même
complètement d'accord. Mais il y a sûrement une stratégie Oscar ou Venise, va savoir.
Et il y a aussi, je trouve que ce qui manque aussi, il y a le queer de Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino.
Voilà, ouais, c'est ça, exactement.
Venise aussi, peut-être.
Et sinon, alors on note aussi qu'il y a seulement 4 femmes versus 7 l'année dernière en sélection officielle. Donc, soit le seuil a baissé à nouveau, soit on se disait que c'était un seuil à atteindre minimal, j'ai envie de dire.
Mais il y a toujours une Française en la présence de Coralie Farja.
C'est ça, exactement.
Et sinon, alors sur la sélection, sur les films qu'on a envie de voir, évidemment, donc je vais répéter hein, ce que vous avez déjà dit, mais c'est vrai que bien évidemment, Liminoff, The Ballad of Eddie, évidemment. Alors il y a Bird, Andrea Arnold, j'avais vu Fish Tank et American Honey, et c'est plutôt, a priori, on est plutôt de retour sur la comédie sociale anglaise style Fish Tank. Évidemment, Quentin Dupieux avec Deuxième Acte. Les Femmes au Balcon, le premier film de Noémie Merlant.
Deuxième film de Noémie Merlant.
Deuxième film ?
Ouais, exactement.
Deuxième film.
Après Mio Bita, mon amour, qui était sorti il y a 2 ans.
Tout à fait.
Il y a un petit retour aussi de Léos Carax avec C'est pas moi. D'habitude, c'est vrai qu'il met 10 ans pour arriver pour faire un film.
Ouais, là, c'est plus un moyen-métrage, c'est ça ?
C'est moyen-métrage.
Ouais. Il y a du beau nom. Il y a quand même du beau nom. Puis il y a aussi il y a Kevin Costner, hein, on n'en a pas parlé.
Exactement.
Exactement. Il y a aussi, alors... Patricia Mazui, c'est à la quinzaine des cinéastes avec La Prisonnière de Bordeaux qu'on avait pu découvrir avec Bowling Saturn.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est ça. Son dernier film sorti en salle, ouais.
Et évidemment, le Mégalopolis, puisque Francis Ford pourrait avoir un nouveau record avec 3 Palmes d'Or.
Et alors, tu parlais de la présence des femmes en compétition. En tout cas, la cérémonie d'ouverture demain sera hostée par une maîtresse de cérémonie en la présence en la personne de Camille Cotin. Et elle assure, en tout cas, elle dit probablement qu'il y aura de nombreuses femmes sur scène demain pendant la cérémonie d'ouverture. Je la cite, il y a des femmes très puissantes dans leur personnalité, leur énergie, leur intellect et leur talent qui monteront sur scène demain. Quand je dis probablement, je ne sais pas encore ce qu'elles ont prévu de faire, mais en tout cas, il y aura beaucoup de femmes sur scène. Voilà, affaire à suivre. Peut-être que ça sera déjà passé quand vous écouterez ce podcast, mais le mouvement MeToo ne sera évidemment pas mis de côté et pas mis sous silence.
En tout cas, on n'en attend pas moins, vu les dernières déclarations de la présidente du Festival de Cannes, Iris Knobloch.
Exactement. Ma Philly, toi, est-ce que les films qui ont été cités te font envie ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête ?
J'en ai d'autres, même si vous en avez cité pas mal. Moi, avant tout, L'Amour Ouf me donne vraiment envie depuis la première annonce. Donc j'ai hâte de voir ce film qui est pas mal publicité.
Et qui a un budget de 30 millions.
Qui a un budget de
c'est rien, ça. Il y a aussi le film de Paolo Sorrentino. Alors là, j'ai peur d'écorcher le titre.
Allez, lance-toi.
Je sais pas.
Ah, on va appeler.
On va appeler Sorrentino.
On va appeler Paolo.
On va dire Paternopé. J'ai envie de dire Nope. Bref, c'est pas grave. J'avais bien aimé l'un de ses derniers films, donc pourquoi pas. J'ai aussi noté La plus précieuse des marchandises d'Azanavicius.
Ouais. Oui, et film d'animation.
On l'avait pas encore cité. Ouais.
Exactement. Et également Emilia Pérez de Chacotière.
C'est une comédie, enfin une sorte de comédie musicale, si j'ai bien compris. En tout cas, on a
oui, je crois, j'ai
on a vu un extrait, il y a quelques temps. Je sais plus si c'était à la French Convention, enfin lors d'un rendez-vous professionnel.
C'était au Congrès des exploitants déjà. Là, c'était il y a un an.
Oui, donc il l'avait reprojeté. Effectivement, c'était une scène où on voyait Zoé Saldana en train d'interrompre la scène et se mettre à chanter, à danser. Et c'est vrai que quand on connaît un peu le style de Jacques Audiard, tout de suite, ça surprend. Donc voilà, est-ce qu'il va, une fois de plus, surprendre les spectateurs, les festivaliers, peut-être gagner une deuxième palme ? On verra.
Alors, bien heureux, Arthur, si tu arrives à nous citer des films qui n'ont pas encore été cités et qui te font envie. Je te laisse prendre ce challenge.
Tout a été dit, et puis mon choix se rapproche beaucoup de ce qui a déjà été cité, mais je voulais revenir sur le Ali Abbasi, que j'attends pas mal, parce que c'est vrai que le cinéaste avait remporté le prix Un Certain Regard en 2018 avec Border, et puis il avait avec son film fait gagner le prix d'interprétation féminine avec Holly Spiders, les Nuits de Machad, en 2021, et puis là il revient du coup avec The Apprentice, un film sur la jeunesse de Donald Trump avec Jeremy Strong et notre ami
et Sébastien Stan.
Et Sébastien Stan.
Moi, je voulais juste rajouter un petit quelque chose, parce qu'on n'a pas trop parlé des sélections parallèles, mais moi, c'est un de mes réalisateurs préférés qui s'appelle Guillaume Braque. Son nouveau film, qui est un long métrage documentaire, Ce n'est qu'un au revoir, va être présenté à l'Acide, et il vient de trouver un distributeur pour la France. Et c'est nos amis de chez Condor qui ont la chance de travailler sur ce film, et on les salue.
Et pour rappel, tu avais présenté son premier film au cours du podcast parallèle.
Exactement, et on passe le bonjour aussi à Charlotte qui est un peu malade mais qui est avec nous dans nos cœurs.
Et en partant d'un certain regard, bon, il y a le premier film de Laetitia Doche qui me tente pas mal aussi, Le procès du chien, qui a l'air complètement loufoque, avec François Damiens, Bouly Lanners et Jean-Pascal Zadi, qui raconte l'histoire d'une avocate qui va défendre un chien récidiviste de la peine de mort.
Sachant qu'il y a le chien Messi l'année dernière, qui était un peu l'une des coqueluches de Cannes, et qu'il y a quelques années, Justine Triet avait projeté Victoria, dans lequel justement le chien était partie prenante du procès de Melville Poupeau, défendu par Virginie Efira.
Voilà, exactement.
La boucle va-t-elle être bouclée?
Et Messi, pour rappel, c'était le chien de Anatomie d'une chute.
Ce que tu exactement, oui, pardon. Pardon. C'est juste qu'on a tellement parlé aujourd'hui. Il fait partie de la culture populaire française.
C'est ça.
Et moi, je rajoute le Coraline Farja, qu'on avait...
Coraline Farja, pardon.
Ouais. Qu'on avait découvert avec Revenge en 2017 et qui arrive cette année avec Substance. Donc, j'attends beaucoup. Et au niveau des documentaires, on peut citer aussi le Claire Simon avec Apprendre, ou le Yolande Zoberman avec La Belle de Gaza.
Et le Coraline Farja, Substance, est à date le seul film de la sélection officielle, de la compétition officielle, pardon, sans distributeur annoncé.
Et ne mettons pas de côté l'animation, parce que Michel Hazanavicius présentera un joli film aussi.
Ma fille l'a déjà dit.
Ah oui, pardon.
mais c'est bien de le répéter, comme ça on est sûr. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ce beau programme vous a donné envie d'en savoir plus. En tout cas, vous pourrez découvrir dans vos salles dès demain le premier film qui sera présenté, qui fait la cérémonie d'ouverture. Il s'agit évidemment de Deuxième Acte, le nouveau film de Quentin Dupieux. Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on passe tout de suite au box-office US international?
Est-ce qu'il sera diffusé partout, c'est dans toutes les salles avec la cérémonie?
Ouais, il y a un gros dispositif avec la cérémonie retransmise également en direct.
Le film sort dans 500 salles quand même. Hein.
C'est ça, une belle combinaison pour un Quentin Dupieux qui, comme dans la tradition des films des Quentin Dupieux, sera facile à multiprogrammer puisqu'il ne fait que 1h20.
Et oui, va-t-il battre son record
De Yannick?
Non, pas de Yannick, de Dali.
Ouais, c'est Dali record.
Ah, c'est Dali maintenant. Ouais. Chaque record chasse un autre. Ouais. Ouais. Il y a un an, c'était...
Plus court. Ouais. Le jour où il fera le film à 1h01 et qu'il fera 1 million d'entrées, là, on pourra dire...
Ça sera le king.
Il pourra se retirer du cinéma. Ça sera son 1000e film.
Le maître de l'absurde.
Julien, je te laisse garder la parole pour enchaîner sur le box-office international et américain de ce week-end.
Alors au niveau US, ce week-end, on a eu un marché à 93 millions de dollars de recettes versus 73 le week-end précédent, boosté évidemment par La Planète des Singes. La Planète des Singes qui a ouvert à 56 millions aux US. Si on compare avec les autres, alors il y avait Dawn of the Planet of the Apes en 2014 qui avait ouvert à 72. On avait War qui avait ouvert en 2017 qui avait ouvert à 52. Et pardon, j'ai pas cité Rise en 2011 qui avait ouvert à 54.
Alors là, tu parles des trois premiers épisodes, hein, c'est ça?
Exactement. Donc, quoi, je reste sur les épisodes
sur
modernes.
Le planète. Ouais, ouais.
Parce que si, pour rien te cacher, si tu veux, le premier Planète des Singes qui est sorti en 1968, lui avait, au niveau worldwide, lui carrément, il avait fait 32 millions de dollars de recettes, mais on est à une autre époque. Alors sur le worldwide, il a ouvert à...
Il est ouvert à 130 millions de dollars, donc c'est le second résultat de... On va rester sur la franchise... contemporaine de cette saga La Planète des Singes. Donc il ouvre à peu près juste un poil en dessous. Le War of the Planet of the Apes avait ouvert à 130, il ouvre à 129 pour être précis au worldwide, mais c'est au-dessus de Rise of the Planet of the Apes, donc le premier opus de cette nouvelle trilogie qui lui avait ouvert à 109 millions de dollars.
Ça fait beaucoup de Dawn, Kingdom, War ou Rise.
Et de Ape. En tout cas, on reste sur du classique, hein, pour La Planète des Singes, a priori, quand on écoute vos comparables.
Oui, bah, avec un cumul de 129 millions, je crois que c'est le deuxième meilleur démarrage pour la série de La Planète des Singes, donc beau score. Les autres avaient ouvert autour de... on est dans la lignée, en fait. Ça correspond à la franchise d'une manière assez classique. Par exemple, pour info, le Rise, il avait terminé à 481 millions de dollars. Le War, il avait terminé à 490. Et il y avait eu le Down, celui de 2014, qui avait terminé à 710. Donc, a priori, il sera autour des 500 millions de dollars de recettes en fin de vie, ce qui est plutôt un beau score et qui booste plutôt le marché, surtout quand on sait que Furiosa arrive dans 15 jours.
Alors le second du box-office US et aussi, je crois, le second du box-office international, il s'agit, Julien, de...
Et Fall Guy. Fall Guy, lui, qui arrive avec 13,7 millions, ou qui rajoute plutôt 13,7 millions de dollars ce week-end, ce qui lui fait un total aux US de 50 millions de dollars. Et ça l'amène au Worldwide à 103 millions. Alors, il y a une petite déception, évidemment, puisque Bullet Train, il avait terminé à 239 millions de dollars Worldwide, qui va avoir du mal aujourd'hui à aller atteindre ce niveau. C'est ce qu'il aurait fallu pour que le film soit rentable. Après, il dépasse les films comme John Wick, qui étaient les premières réalisations de David Leitch, le réalisateur de Fall Guy. John Wick, qui avait terminé, lui, à 86 millions, et Atomic Blonde, qui avait terminé à 100 millions.
En troisième position, Julien.
En troisième position, on retrouve à l'international, parce que le film n'est pas encore sorti au domestique. Le film d'animation sur Garfield, qui est sorti dans 22 territoires et qui ajoute du coup 11 millions de dollars, presque 12 millions de dollars, 11 800 000 dollars au week-end, pour un cumul de 36 millions de dollars à date.
Alors, il est sorti déjà sur 22 territoires et il sort en France que à la mi-juillet. Comment on explique ça ?
Je pense qu'ils avaient pas, ils n'étaient pas forcés déjà d'avoir une sortie worldwide ou une stratégie worldwide, que c'était chaque marché qui décidait un petit peu sa date de sortie. A priori, en France, ils se sont dit au mois de mai, sur les films familiaux, c'est plus compliqué de les faire fonctionner sur la durée, donc ils sont partis sur une date en été. Mais tu as raison, en tout cas, les tracking déjà sont très bons, puisqu'il a ouvert en Allemagne où il a fait plus de 2,1 millions de dollars. C'est 85% au-dessus de DC League, la ligue des super chiens, la crypto super pets. C'est 40% au-dessus de Puss in Boots. Alors Puss in Boots avait démarré très doucement et il avait tenu sur la durée. Et c'est aussi au-dessus de The Last Wish. Donc Garfield est tendance en ce moment.
Tout à fait. En quatrième position du box-office international, c'est un film qu'on retrouvera à Cannes en séance de minuit. Julien ?
Twilight of the Warriors.
Exactement. Film hongkongais.
Exactement. Alors, il a rajouté 10 millions ce week-end. Il a un cumul de 67 millions de dollars de recettes. Donc, un sacré score.
Ouais, une des attentes des fans de cinéma asiatique, puisque ça s'annonce comme un vrai bon film d'action thriller dans la pure tradition hongkongaise.
Alors ensuite, en cinquième position, on a Challengers, lui qui est à 68 millions. Alors ça sera pas le même effet que Anyone But You, mais belle présence quand même pour... le film devait sortir sur Netflix, il devait même pas apparaître sur les écrans de cinéma, donc un petit cumul à 70 millions.
Ouais, rappelons-le, distribué par Amazon et MGM du coup aux États-Unis et par Warner Bros. International.
Belle présence qui, on va le voir, se confirme aussi au niveau français.
Exactement. Alors après, on notera, alors on va peut-être pas tout vous citer aujourd'hui, mais on va noter en huitième position un petit truc en plus.
Ouais, ça c'est fou quand même.
Qui est là, alors en plus c'est sur son deuxième week-end d'exploitation, donc on en avait parlé la semaine dernière, mais il n'y avait pas les chiffres, donc il était a priori bien présent, mais en tout cas en huitième position avec 16 millions de dollars de recettes. Et puis il est sorti qu'en France, peut-être en Belgique, même pas sûr.
Non, en territoire. Il faut se rendre compte que... Un petit truc en plus, qui est un film français uniquement sorti sur le territoire français et huitième du box-office international, ce qui est quand même assez fou. C'est les films comme ça sur un seul territoire qui arrivent à intégrer le top 10 international, ce sont souvent des films soit chinois sur leur seul territoire, soit américains sur leur seul territoire. Voilà, c'est une vraie bonne prestation.
Ah, on peut voir qu'il est presque au même niveau que le film d'horreur de Sony, Taro, à l'international, à 4 millions de différence.
L'écart du mal en France, ouais, tout à fait.
Et on termine avec Godzilla, lui qui termine à 558 millions de dollars, tout à fait inattendu aussi.
Voilà, un box-office international partagé entre films américains, films asiatiques et un petit français qui fait mieux que résister. Et en parlant d'un petit truc en plus et de box-office français, c'est l'heure de laisser la parole à Jérémy et ma fille pour le box-office France après ce petit jingle.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Jérémy, c'est à toi de nous débriefer un petit peu la tendance, comment s'est comporté le box-office français sur ce week-end, on peut dire week-end de 5 jours et week-end assez ensoleillé partout en France.
Ouais, alors je pense que Julien en parlera mieux que moi, mais il y a une petite déception sur le week-end par rapport au mercredi, jeudi, vendredi, qui avait démarré quand même assez fort. Donc évidemment, on essaie toujours de trouver des raisons, mais on peut le dire quand même objectivement, le beau temps n'a pas dû aider. Quoi qu'il en soit, ce 19e week-end de l'année, on est un marché à plus de 3 181 000 pour être précis. Pour rappel, la semaine dernière, on était à 3 126 000. Donc c'est quand même, voilà, on est sur une bonne tendance. Et qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui, un marché qui dépasse les 3 millions, ça reste un marché aussi sain et il faut le signaler. Ouais.
Oui, surtout c'est la première fois qu'on dépasse les 3 millions deux fois de suite cette année. Donc hors vacances, alors c'est vrai que c'est sur une des situations de pont qui, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2019. On est, alors cette fois justement, cette semaine ou ce week-end, on est exactement à peu près au même niveau que 2019. Alors malheureusement, c'est plutôt à la baisse.
Tu vends du rêve là.
mais il y a une espèce de... C'est quand même plutôt positif. Bien que ce marché reste très concentré sur trois films.
Bah oui, mais ça montre quand même, une fois de plus, on n'arrête pas de le dire, que ça reste un marché de l'offre. Donc on a certes un film français qui est un véritable phénomène, mais associé à une franchise attendue et qui fonctionne plus que bien en France, et un film pour prendre le relais de Kung Fu Panda 4 au niveau des familles, et ben tout de suite, voilà, on a d'un coup un marché qui existe vraiment. Et quand si on regarde vraiment dans le détail, il y a plein d'autres plus petits films, on va dire, qui font pas 1 million d'entrées, mais qui font faire 500 ou 600 000 fins de vie. Et c'est exactement ces films-là qui sont, on va dire, un peu le ciment du marché. Et dès que tu en as deux, trois qui vont bien performer, voire surperformer, ben c'est comme ça qu'on pourra, on l'espère, un jour retrouver une année comme celle qu'on a connue en 2018 ou 2019.
Non mais c'est exactement ça, c'est cette typologie de films différentes ou qui attire un public différent qui permet de nourrir le marché. Et c'est vrai que c'est aussi des films de moindre envergure qui doivent aller chercher ces 500 000, qui vont faire le sel du marché, qui vont lui permettre d'arriver à un niveau... attendu. Alors c'est vrai que cette année, pour l'instant, le début d'année était assez...
moribond.
Moribond, exactement. Donc en tout cas, on prend tout ce qu'il y a de positif et on espère que d'ici, on avait dit Furiosa, il y a Bad Boys 4, après il y a Vice Versa, il y a Moi Moche.
Il y a Garfield maintenant du coup.
Il y a Garfield enfin,
qu'on
aussi.
Peut, qu'on peut vraiment voir comme un gros challenger pour les deux titres d'animation que tu as cités juste avant.
Exactement. Donc voilà, c'est on va prendre le côté très positif. Malgré ces 5 jours, c'est vrai qu'on s'attend toujours à un marché au-dessus de 4 millions, mais est-ce que ça, c'était pas avant ?
Ça reviendra, moi j'en suis sûr.
En tout cas, le marché, lui, est dopé par deux films, principalement, qui trustent les deux premières places et qui se collent. Hein. Ils sont quasiment tout proches l'un de l'autre.
Ils sont à 5 000 entrées d'écart, mais en première position, une fois de plus, pour le deuxième week-end consécutif, c'est donc le film d'Artus, Un petit truc en plus, sorti par Pan Distribution. Pan Distribution qui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui avoir promu David Baudry, qui est arrivé dans la structure début janvier en tant que, si je ne dis pas de bêtises, conseiller. Et il est maintenant, et on le félicite, directeur de la distribution.
Ouais, et on les salue. On était d'ailleurs la semaine dernière à la même heure chez eux pour enregistrer le podcast précédent et que vous pouvez redécouvrir sur toutes vos plateformes habituelles.
Quoi qu'il en soit, le film perd seulement 8%. Il ajoute 830 000 entrées pour cumuler au dimanche soir 1 961 413 entrées.
Enfin, ça y est, on l'a, notre phénomène qu'on attendait.
Moi, je regarde les chiffres chaque jour, c'est absolument phénoménal. Là, clairement, Julien, une fois de plus, tu me dis si je me trompe, mais 4 millions d'entrées, c'est plus que réalisable. Et est-ce qu'il peut aller chercher la barre symbolique des 5?
À partir du moment... Oui, pour les 4 millions, il n'y a pas de souci, a priori. Si on prend tous les comparables, alors même... Alors, Dune 2, après 10 jours, il était à 2 millions 250. Mais si on regarde du côté des comédies, Astérix, il était à 2 millions 6, sauf qu'il perdait, lui, 26%... quoi, il perdait, pardon, plus de 50% ou 40%, j'ai plus le chiffre exact.
Mmh. Il n'avait pas le même coef Paris-Province, il faut toujours le rappeler.
Il n'avait pas le même coef. Et puis surtout, c'est la tenue, c'est le phénomène, c'est quelque chose, ça veut dire que Astérix, il est arrivé, il a démarré très fort, et forcément, les chutes étaient un petit peu plus violentes. Au niveau d'Alibi, au bout de 10 jours, ils sont à peu près au même niveau, il doit y avoir 3% d'écart. Les Mousquetaires, au bout de 10 jours, il était à 1,5 million, donc c'est déjà devant. Le Bon Dieu, en 2019, c'était 3,6 millions, mais il a terminé à 6,7 millions, et c'était tiré d'une franchise qui était déjà connue. Mmh. C'est déjà également aussi le meilleur score presque pour un film français en 2022, puisque c'était Simone qui avait fait 2,5 millions.
Et qui avait eu une carrière sur quoi, plus de 10 voire 12 semaines.
Ah oui, au niveau des 10 jours, ouais. C'était très très loin.
Qui avait été poussé par les scolaires.
Je
ne
suis même pas sûr qu'il avait atteint le million d'entrées au bout de 10 jours. Mais alors, ce qui est encore le plus intéressant, c'est qu'il avait ouvert sur la même date, et on en parlait la semaine dernière, que Nous finirons ensemble. Et au bout de 10 jours, Nous finirons ensemble avait terminé à 1,8 million. Il avait perdu 43% pour son deuxième week-end. Et il avait terminé autour de 3 millions.
Ouais, et on parle d'un film avec un casting 5 étoiles dans le cinéma français.
Donc, je ne vois pas sincèrement comment il ne venirait pas chercher ses 4 millions d'entrées. Et à partir du moment où tu passes tes 4 millions d'entrées, en fait, après, il n'y a plus de limite. Parce qu'à un moment, même si on reprend Top Gun, quand il était arrivé, tout le monde disait 4, 4, 5, 5.
Il a terminé quoi, à 7 ?
Il a terminé pas loin de 7, 6 millions 5. Donc de toute façon, ça va durer, ça va traîner. Il y a la fête du ciné. Il sera là encore pendant l'été. Hein, donc,
Non, et puis il devient aussi ce phénomène du film qu'il faut avoir vu. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi sa baisse très, très, très peu significative de moins 8% cette semaine. C'est-à-dire que tous les spectateurs qui n'étaient pas forcément acquis au départ se sont dit, mais il se passe quelque chose sur ce film, il faut qu'on s'en rende compte par nous-mêmes.
Je pense que nous tous autour de la table ou dans nos boîtes dans lesquelles on travaille, respective, à mon avis, si on en parle à nos collègues, tout le monde l'a déjà vu ou va aller le voir parce qu'à un moment il faut se faire son propre avis. Mmh. Et on parlait j'évoquais la météo en début de top. Clairement, on annonce pas mal de pluie dans les prochains jours, des températures qui vont diminuer. Pas de grosses locomotives avant Furiosa le 22 mai. Mmh. Là, il peut aller chercher encore 800 000, voire 1 million en troisième semaine. Non,
s'il a été capable de résister ce week-end, tu as raison, dès qu'il va y avoir des baisses de météo, c'est lui qui va sortir grand gagnant. Non, c'est un véritable phénomène. Et l'avantage, c'est qu'il a fait une super première semaine, mais on ne l'attendait pas à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'après, il a eu une espèce de double promo, puisque toutes les télés, tous les réseaux ont commencé à en parler. Et donc, forcément, ça lui rajoute de la pub. Et comme tu dis, c'est le film à avoir vu, donc les gens vont continuer d'y aller.
Maintenant, ce qu'on va guetter, c'est quand le ballon de Baudruche, et non pas le ballon de Baudry, excusez-moi, ça arrive malheureusement.
Ça, là, Aurélien l'aurait apprécié.
Ouais. Non, mais Aurélien, il n'est pas là, donc on ne parle pas d'Aurélien ce soir. Mais on l'embrasse quand même. À voir quand est-ce que ça va se dégonfler. En tout cas, il y a une franchise qui ne se dégonfle toujours pas. C'est La Planète des Singes. Je ne sais pas le combienième épisode c'est. Arthur me fait 8 avec les doigts. Donc, on va dire le 8e. Donc, La Planète des Singes sortie par Disney.
Qui... Plus, parce qu'il y en a eu 5, je crois, après celui-là.
Bon, en tout cas, La Planète des Singes épisode, vous vérifierez chacun chez vous. Franchise Fox à l'historique, mais qui aujourd'hui est sortie par Disney, cumule pour son premier week-end 825 979 entrées. Ma fille, est-ce que tu as quelque chose à nous dire d'un point de vue comparable ?
Totalement. On est dans les mêmes eaux que le dernier opus qui est sorti en 2017. C'était La Planète des Singes, Suprématie. Il démarrait à 871 000 entrées. Donc, pour une fin de vie à 2,8 millions.
Bon, là, clairement, il devrait aller chercher quoi, les 2,5 millions, Julien ?
Oui, d'habitude, il termine entre 2, 5 et 3. Donc, il n'y a pas de raison que ça change.
Ouais. En troisième position, c'est une bonne surprise. Enfin, moi, personnellement, je ne l'attendais pas aussi haut pour son démarrage. Blue et compagnie, en anglais IF, la comédie, on va dire comédie enfant, comédie familiale de John Krasinski, sortie par Paramount, qui cumule 436 000 entrées pour son premier week-end. Ma fille, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ces très beaux résultats ?
Ah, pareil, je suis très étonnée de ce gros bonhomme violet qui fait de belles entrées. Dans la même typologie de film, j'ai pris Chien et Chat, qui est sorti en février, et qui avait pas très bien démarré, mais qui s'en était bien sorti.
Qui avait fait le million, je crois.
Qui a fait le million, million 1. Mais il démarrait à 243 000 entrées. Donc, clairement, on est, c'est quasiment le double, un peu moins.
Là, on...
Donc j'ai aussi pris Pierre Lapin 2, qui est sorti en 2021, qui faisait 434 000 entrées, et fin de carrière à 898 000 entrées. Donc, il n'avait pas une super bonne tenue.
Mais là, il s'est écroulé. Il a eu un TOEFL que de 2.
Oui, mais je crois qu'il était sorti juste après le premier confinement. Non, il n'était pas dans une mauvaise période, Pierre Lapin 2.
Je sais pas, précise.
Oui, 2021.
Ah, 2021. On va vérifier.
En tout cas, celui-ci, Julien, 1,5 million, normalement.
Ouais, il est dans cette lignée. Alors après, voilà, c'est vrai que c'était pas évident de lui trouver des comparables. Et j'ai.
Clifford, peut-être, qui a été sorti par Paramount.
Moi, j'ai Pokémon Détective Pikachu.
Ah ouais. Oui, très bon, très bon.
Il était à combien ?
689 000 entrées. Donc, fin de carrière à 1,6
million. 1,6 million. Et on avait aussi le Spider-Man, Across the Spider-Verse.
Mais qui avait démarré très fort, je crois.
Non, il avait démarré à 475, donc il n'est pas si loin.
Le numéro 1 ou le numéro 2 ?
Le numéro 2, ah, ouais, qui avait terminé à 1,9 million. Donc oui, oui, 1,5 million. Et surtout, la force, c'est qu'il a réussi à éclipser Kung Fu Panda 4, Ghostbusters, Ducobu. Tous les films familiaux ont souffert en fait, de l'arrivée de Blue et compagnie.
Comme quoi, les petites bêtes type Monstres et compagnie, ça plaît toujours aux enfants.
On ne cesse de le dire et de le redire depuis le début des podcasts, mais Paramount, c'est peu de films, mais à chaque fois, ce sont des sorties qui marquent.
Ouais, ils ont eu un petit passage à vide là, ces derniers temps, et dès que Bob Marley est arrivé, d'ailleurs, c'est marrant, c'est à peu près le même type de sortie. Alors, je m'explique, c'est que c'est des films dont on a entendu parler, on a vu les bandes-annonces, mais d'un coup, dans l'environnement médiatique, les films n'existent pas beaucoup jusqu'à 2 semaines avant la sortie, et là... C'est-à-dire ils prennent un char d'assaut et ils envoient tout ce qu'ils ont et le film il est visible partout. C'est vraiment une drôle de stratégie. Non, c'est la stratégie Paramount qui détonne vraiment. C'est-à-dire on a l'impression, mais bon, c'est des infos qu'on n'a pas, mais qu'ils dépensent quasiment tout leur budget marketing sur un temps très court, très concentré. Et pour le moment, force est de constater que c'est une stratégie payante.
C'est une stratégie en tout cas. Je crois que on le nomme en marketing l'effet blast.
L'effet blast, c'est ça. Hein, bah, eux, c'est clairement, voilà, c'est l'effet blast. On connaît le film, mais il arrive à pas masqué, mais tranquillement. Et d'un coup, on sort de chez soi, on allume la télé, on écoute la radio, on lit n'importe quel magazine, n'importe quel journal. On voit le film. Donc clairement, en termes de notoriété, je pense que tout le monde a entendu parler. Et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on salue aussi nos amis de Paramount. En quatrième position, un distributeur dont on a souvent vanté les qualités de tenue des films, c'est Studio Canal avec le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, qui pour son troisième week-end perd certes 44%, mais qui ajoute 145 000 entrées au compteur pour 823 000 entrées au total. Voilà, un biopic qui va faire 1 million d'entrées.
Excellente performance.
Alors, une performance un peu moins notable, tristement d'ailleurs, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le film, c'est The Fall Guy, distribué par Universal Pictures, qui perd moins 54% pour son deuxième week-end. 115 000 entrées ajoutées pour un petit cumul de 427 000 quand on sait que le précédent film du réalisateur David Leitch, Bullet Train, avait terminé à 1,6 million. Celui-ci, Julien, il va peut-être même pas aller chercher 1 million d'entrées.
C'est assez inexplicable, hein, cet échec.
Ouais, on va essayer de comprendre, mais c'est vrai que je sais pas, la promotion, le marketing, le côté un peu trop sophistiqué, peut-être pas assez de mise en avant sur Emily Blunt, parce que c'est vrai que les notes et les retours salles sont
très, très positifs,
très, très bon. Mais c'est pas un must-see.
Il y a pas de, pourtant c'est positif, mais il y a pas de bouche à oreille qui se crée sur
le film. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Les gens se disent pas, c'est un film à aller voir en salle, c'est pas indispensable. Donc malheureusement pour lui, il s'est recalé au niveau de Baby Driver, qui avait terminé à 700 000 entrées, ou de Lost City of D, qui avait terminé à 650. Mais je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, il puisse dépasser les 600 000 entrées. Ouais. C'est pas une évidence.
En tout cas, en sixième position, pour eux, c'est pas du tout une déception, puisque c'est le distributeur Zinc avec le film Frère, Yvan Attal, Mathieu Kassovitz, qui pour son troisième week-end ajoute quasiment 70 000 entrées pour un très 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 beau cumul à 482 000 entrées. En septième position et pour son deuxième week-end, le film d'horreur de Sony Pictures, Les Cartes du Mal, ajoute 60 000 entrées pour un cumul à 191 000. On est dans les normes, voilà, des on dit mes petits moyens films d'horreur sortis par les majors. En huitième, N'avoue jamais, la comédie d'Ivan Kalberak ajoute 54 000 entrées.
Le Tout sauf toi des seniors, peut-être.
Exactement, on peut le dire comme ça. Le Tout sauf toi des seniors qui cumule un bon score, 447 181 entrées. Je crois que Julien, c'est, au niveau des scores du réalisateur, c'est, on est dans sa moyenne.
Oui, il arrive, il dépassera les 500 000 entrées. Donc, j'ai plus les titres sur moi de ses précédents films, mais.
L'étudiante et Monsieur Henry, il y avait dedans.
Ouais, et il y en a. Je sais que ça se termine toujours autour des 500 000, donc.
Et puis surtout une bonne nouvelle pour Wild Bunch, quand même.
Excellente nouvelle.
9e position, Le Tableau Volé, le film de Pascal Bonisseur, distribué par Pyramide, qui ajoute 54 000 entrées pour un beau cumul, je trouve, à 191 000 entrées. Voilà, hyper certes, 48%, mais sa carrière est loin d'être terminée. En 10e position, on en parlait tout à l'heure, Challengers de Luca Guadagnino, c'est bon, je l'ai bien prononcé.
Yes, bien joué.
3e week-end, 53 000 entrées de plus, moins 49%, et un cumul quand même à 378 000 entrées. Bon. Il ne va pas réitérer le score de Call Me By Your Name qui était à 500 000 et quelques de mémoire, mais il va faire ses 400 000 allègrement. C'est quand même pas trop mal. Hein.
C'est une belle performance tout de même. Ouais.
Après, il n'a pas vraiment de comparable. Donc, à part si on prend Anyone But You qui avait terminé à 600 000 mais qui était une exception. Et sur le côté justement où on pouvait rapprocher Fall Guy avec le côté action, romance, comédie, là, il y a le côté romance. Action, sport
mais si on...
qui n'est pas évident ouais. à mettre en place.
C'est ce que j'allais dire, si on le met dans des comparables de films de sport, il s'en sort très bien. Si on le met dans des comparables plutôt comédie-romance, c'est dedans. Quoi.
C'est dedans, ouais, ouais. Exactement.
Je vais juste parler du 11e et du 12e avant d'aller vite sur les démarrages. Mais en 11e position, Kung Fu Panda 4, qui est toujours là après 7 week-ends d'exploitation, qui ajoute 50 000 entrées, qui fait presque les 2,294 000 entrées. Donc c'est sûr, Blue et compagnie lui fait un peu de mal, mais il a quand même de quoi aller chercher peut-être les 2,5 millions. Et en 12e position, Civil War pour son 4e week-end, c'est déjà depuis quelque temps le meilleur résultat d'Alex Garland, mais 30 000 entrées de plus au compteur pour un cumul à 578. Les 600 000 seront bientôt atteints. Et donc, ouais. Les démarrages rapidement.
Et juste pour ouais. Civil War, c'est presque dommage de voir ce moins 60% sur sa quatrième semaine, parce que sur le quatrième week-end, pardon, parce que les retours spectateurs sont tellement positifs sur le film qu'on pouvait s'attendre à qu'il passe dans la case de ces films qu'on appelle aussi des sleepers, c'est-à-dire des films qui font leurs entrées aussi vraiment sur la durée. Et là on a l'air de s'approcher d'une fin de carrière, alors que je pense que le film en a encore dans le ventre.
Ouais, mais moi personnellement, je pense que là, tu as la planète des singes, lui a quand même mis le coup fatal, et Furiosa, là, ça
n'existera
plus.
C'est ce qu'on disait aussi.
Alors, c'est pas du tout le même genre de film, hein, mais comme il a été vendu
il a été marketé comme
un
ça,
peu ouais. comme un gros blockbuster, alors qu'il y a des scènes impressionnantes, mais elles représentent finalement très peu sur la durée du film. Voilà.
C'est ce qu'on disait aussi un petit peu au début, c'est-à-dire que le marché s'est concentré sur les trois premiers films, et derrière, les tenues ont été beaucoup moins puissantes que ce qu'on pouvait espérer. Et donc, on aurait eu forcément un marché un peu plus faible. Mais est-ce qu'à un moment, il n'y a plus assez la place, le public ne fait plus... C'est soit tu restes sur tes trois premiers films, soit tu vas, comme tu disais, aller un peu sur les sleepers. Mais les deux en même temps, aujourd'hui, ont du mal structurellement à fonctionner ensemble. Et c'est vrai que c'est soit on est sur un petit marché et forcément les continuations, on va dire qu'elles sont bonnes, elles sont fortes, mais malheureusement pas assez hautes. Et on aimerait avoir cette combinaison des deux. Et c'est ce qui faisait dans le passé, en tout cas, qu'on arrivait à des marchés à 4 millions.
En tout cas, pour le reste des démarrages, en 13e position, Neuilly-Poissy, sorti par Paradis Film, qui cumule 33 509 entrées. Comme à lundi, le film japonais distribué par Art House, qui fait 22 972 entrées. Super Lion de KMBO, 38 787 entrées, bien aidé par ses 18 562 entrées d'avant-première. En 24e position, un autre démarrage, Un homme en fuite de Tandem, qui cumule 15 189 entrées. 25e position, L'Esprit Coubertin, qui ne profite pas de la promotion indirecte de l'actualité des JO chez nous, Backfilm.
La hype JO n'est peut-être pas encore en route.
Ouais, malheureusement pour Backfilm, ce n'est que 13 138 entrées. En 33e position, Wake Up, distribué par Alba Film, qui fait 6 293 entrées. J'ai La Vie selon Anne de Pan Distribution, qui n'a pas que des succès, 2 321 entrées. La même Mémoire éternelle de Bodega Film, 1417 entrées. Blagas Lessons en 47e position, sorti par Danet Distribution, 1397 entrées. Et je crois qu'il m'en manque. Et après, très rapidement, Un jour fil, 1654 entrées. Ça, c'est sorti par Cap Film. Jeunesse Mon Amour de Wenya Pitch, enfin, sorti par Wenya Pitch, 1295 entrées. Et enfin, il en reste deux derniers. Mon pire ennemi, 1133 entrées, ça c'est Survivance. Et le tout dernier, Toutes les couleurs du monde, 1251 entrées, c'est chez Optimal.
Merci d'avoir été aussi complet, Jérémy. Et je termine juste deux mots sur SOS Fantôme et sur Ducobu, qui sont quasiment aux portes du même entrée, mais qui a priori, plutôt en fin de carrière, ne vont s'arrêter là. Voilà, c'est des films qui seront quasi millionnaires pour les deux.
On l'espère. Pour l'instant, on a 8 films au-dessus du million d'entrées. L'année dernière, à la même époque, on en avait 13-14. Donc, ça serait bien qu'ils passent la barre symbolique.
Ça serait bien quand même, ouais. Et puisqu'on les avait au micro, il y a deux lundis de ça, Une affaire de principe. Lui est désormais à 72 000 entrées pour son deuxième week-end, avec tout de même une perte importante de 57%. Voilà, on a été, je pense, le plus complet possible sur le week-end du box-office français. Il est l'heure de nous pencher sur la semaine prochaine. Mafili, pour cela, tu nous as préparé un sondage sur Twitter. Tu vas nous donner les participants ainsi que les gagnants.
Alors, dans le sondage, il y avait le deuxième acte, qui sort donc demain au cinéma, Les Intrus, sorti mercredi, Les Trois Fantastiques et Rokia. Je n'ai pas les noms des distributeurs. Donc,
c'est pas grave, on les redira tout à l'heure. Après.
Et en tête, c'est, je ne vais même pas vous laisser deviner, c'est le deuxième acte.
Forcément.
Avec 62%, suivi de, des Trois Fantastiques, ensuite Rokia pardon, et Les Intrus.
Donc ce ne seront pas les seuls démarrages, semaine un peu particulière, puisque comme tu l'as dit, Mafili, deuxième acte, lui, sort de manière un peu prématurée, puisqu'il sortira mardi dans toutes les salles, au même moment que sa projection en ouverture du Festival de Cannes. Mercredi arriveront 11 autres titres, à commencer par Les Intrus, sorti par Metropolitan et réalisé par Rémi Harlin. Rémi Harlin, Julien, réalisateur de...
Peur Bleue.
Et aussi de
Die Hard, et je cherche numéro 2. Die Hard numéro 2, enfin, grand réal des années 90 en tout cas. Ah mince, je voulais rajouter quelque chose, mais c'est perdu.
Et ben si ça revient, tu m'interromps, t'hésite pas. 5 sortira Les Trois Mousquetaires, Les Trois Fantastiques, pardon, également avec Raphaël Quenard, qui est aussi à l'affiche du film de Quentin Dupieux. Jokers sortira un film d'action avec Goldshift et Farani et Jérémy Ferrari, ça s'appelle Rokia. C'est une sortie à réessayer. Chez Eurozoom, on aura de l'animation avec Les Quatre Âmes du Coyote. La Morsure, chez KMBO, c'est un drame. Un film dont on a un peu entendu parler, qui a une vraie hype au niveau du public horreur, parce que je crois que le film est assez brutal, c'est When Evil Lurks. Arthur, tu veux en dire un mot sur ce film ?
Oui, il me semble qu'il avait remporté des prix à Gérard Armé au dernier festival.
Ouais, film d'horreur argentin, sorti par un distributeur que je ne connais pas, mais que je salue s'il nous écoute, Factories Film. Outplay sortira une comédie dramatique belge, Les Tortues. Chez Moonlight, on trouvera le film Rennes. Et enfin, on finit avec Rapture chez Capricci, c'est un drame indien, un documentaire chez Survivance, là où Dieu n'est pas. Et enfin, on termine avec Swashbuckler qui sort le tout dernier film en date de Roman Polanski, il s'agit de The Palace. Voilà, on a été complet et je termine juste sur la sortie également anticipée de Marcello Mio, le nouveau film de Christophe Honoré qui fait honneur à Marcello Mastroianni, qui lui sortira au moment de sa projection cannoise, à savoir mardi prochain. Julien.
René Harlin, donc c'était aussi Cliffhanger et Au revoir à jamais.
C'est, on dirait le top des films préférés d'Aurélien. Mais dommage Aurélien, tu n'es pas là une fois de plus.
Et donc c'est quand même le troisième film d'horreur de l'année sorti par Metro.
Voilà.
Prendre le relais entre guillemets de Les Cartes du Mal.
Et qui bénéficiera d'une semaine avec de la place pour avoir des belles séances. On embrasse Aurélien, on embrasse tous les gens qui seront au Festival de Cannes et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dès la semaine prochaine pour débriefer ces premiers jours cannois. Et je vous remercie à tous et nous on se dit à très vite sur Débrief Film. Ciao ciao.
Salut.